Je vais démarrer une série de messages pour l'Église sur le thème « Une nouvelle vie ». Amen. Une nouvelle vie. Nous devons comprendre le genre de vie à laquelle Dieu nous appelle. C'est une nouvelle vie, c'est une vie nouvelle, c'est quelque chose de nouveau. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. 2 Corinthiens. Chapitre 5. À partir du verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17. La Bible dit donc, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une créature nouvelle. Il est une créature nouvelle. Il est quelqu'un de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset dit bien « si quelqu'un est en Christ ». C'est « si ». Donc, ça veut dire que si la personne est en Christ réellement, il y a un changement qui va s'opérer dans sa vie. Si le changement ne s'opère pas dans sa vie, c'est qu'on peut se douter de sa présence, du fait qu'elle soit en Christ. Amen. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, il y a des changements qui s'opèrent dans sa vie. Il y a des choses qui doivent obligatoirement s'opérer dans sa vie. Et c'est ça qui montre véritablement que cette personne-là est en Christ. Amen. Il doit y avoir une transformation. Vous savez, la Bible parle de l'Église comme étant la promise de Jésus. Et l'Église annonce également un événement assez important qu'on appelle les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, c'est littéralement un mariage entre Jésus et son épouse, l'Église. Et il y a une chose que Dieu veut faire, parce que lorsque nous devons nous marier, le jour du mariage, c'est le jour où on est le plus beau possible. L'homme se fait très, très beau, la femme se fait très belle. On revêt, en fait, ce qu'on appelle des vêtements glorieux. Et Dieu veut nous revêtir. Amen. Il veut nous revêtir. Il veut nous revêtir de sa gloire. Il veut que nous revêtions, que nous portions sa gloire, comme une robe, comme un vêtement. C'est quelque chose qui vient sur nous, sur notre vie. Il nous revêt de sa gloire. Amen. Et le Seigneur me montrait ça comme ça. Il dit, tu vois, je veux revêtir chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, je veux le revêtir de gloire. Je veux mettre ma gloire sur lui. Amen. Et s'il met sa gloire sur nous, alors nous allons commencer à briller, nous allons commencer à expérimenter certaines choses. Ces choses dont la Bible dit, l'œil n'a point vu, ni l'oreille a entendu, les choses que Dieu a réservées pour ses enfants. Amen. C'est ça, c'est la gloire de Dieu qui amène ces choses-là. Vous voyez, de la même manière que souvent, nous sommes dans l'erreur quand nous pensons que nous devons être saints pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. On se dit, je veux le Saint-Esprit, mais il faut que je sois saint d'abord. Donc beaucoup de personnes ne s'ouvrent pas au Saint-Esprit tant qu'ils n'ont pas commencé à mener une vie de sainteté. Oublions qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité et la possibilité de vivre de manière sainte. Donc, la sainteté n'est pas une condition pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit. Il dit, si vous méchantes comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Ça veut dire que la condition pour avoir le Saint-Esprit, c'est de le demander, c'est de le vouloir vraiment. Amen. Ce n'est pas la... C'est vraiment de le vouloir. Il ne s'agit pas de dire « je veux le Saint-Esprit aujourd'hui » et quand le Saint-Esprit vient et qu'il commence maintenant à te parler et à te pousser dans certaines choses et à te conduire dans certaines choses, à chaque fois dire non, 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 résister. C'est une manière de dire oui dans la bouche et puis non dans les actes. Donc ça, c'est une manière en fait de chasser le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Mais si effectivement vous le dites, vous le voulez, vous le croyez, le Saint-Esprit va littéralement venir habiter en vous. Amen. Et dès qu'il va habiter en vous, la chose qu'il va faire, c'est qu'il va vous amener à marcher dans la sainteté, dans la sanctification, obligé. Le Saint-Esprit vient, c'est la sainteté. Il vous conduit dans la sainteté, il vous conduit dans la sanctification. Quand bien même la sainteté et la sanctification n'est pas la condition pour avoir le Saint-Esprit, la sainteté et la sanctification est la condition pour manifester la gloire de Dieu et pour voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Quand le Saint-Esprit vient, il vient nous aider. La Bible dit de lui qu'il sera pour nous une aide, un conseiller, un avocat, un soutien. Il va nous donner la direction, la sagesse, l'intelligence. Il va nous donner tout ce qui contribue à avoir le genre de vie que Dieu veut que nous ayons. Mais le genre de vie que Dieu veut que nous ayons a un but ultime. Ce but-là, c'est que la gloire de Dieu, dis à ton voisin la gloire de Dieu, alléluia, c'est littéralement que la gloire de Dieu vienne sur toi. Amen. Que sa gloire vienne sur toi. Or, quand la gloire de Dieu est sur quelqu'un, sur un individu, sa vie va commencer à briller. La gloire de Dieu n'est pas affectée par l'environnement, ni par le pays. La gloire de Dieu n'est pas affectée par la conjoncture économique. La gloire de Dieu n'est pas affectée par une situation quelconque. En anglais, on dit « it is not respecter of person ». Ça veut dire que la gloire de Dieu ne fait pas vraiment de distinction. Quand la gloire de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, cette gloire-là va attirer vers nous pratiquement tout ce dont nous avons besoin. Quelqu'un qui a la gloire de Dieu sur sa vie va commencer à briller. Amen. Il va commencer à briller. Il va commencer à attirer des choses dans sa vie. Il dit, il pourvoit à tous nos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Quand la gloire de Dieu est dans la vie de quelqu'un, l'Éternel va littéralement pourvoir. C'est vrai que pour un temps, il peut connaître la frustration. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant de faire descendre sa gloire, ou bien avant d'augmenter le niveau de sa gloire, nous traversons toujours une période d'épreuve. Amen. Toujours. L'épreuve, en fait, va venir, vous allez connaître un niveau de gloire. Mais le problème aussi, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas que vous soyez attaché à la gloire plus que vous êtes attaché à celui qui met sa gloire sur votre vie. Amen. Donc, de temps en temps, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va retirer sa gloire pour voir si votre cœur est toujours attaché à lui et non à la gloire. Parce que le problème, c'est que la gloire également peut te corrompre. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous êtes dans la gloire de Dieu, en réalité, il n'y a aucun sujet pour lequel vous priez qui ne s'accomplit pas en réalité. Vous êtes dans la gloire, vous baignez, vous êtes à un niveau, vous-même, vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un comment les choses se font. Comment vos besoins sont pourvus, comment les choses arrivent dans votre vie. Vous ne pouvez pas le dire parce que vous n'avez pas à savoir comment. Vous avez tout simplement à savoir que vous êtes là pour régner. Il a dit, ils régneront sur la terre. Et ce règne est permis sur la terre à cause de la gloire de Dieu que nous avons sur notre vie. Donc Dieu ne nous a pas sauvés simplement pour que nous ayons à lutter contre le péché en réalité. Dieu ne nous a pas sauvés pour que notre vie chrétienne soit une vie médiocre. En réalité, derrière chaque vie chrétienne se trouve un témoignage glorieux qui va amener des centaines de personnes à donner leur vie au Seigneur. C'est ce que tu es. Tu as un témoignage en gestation. Tu as un témoignage en préparation. Sauf si tu rates ta destinée. Si tu rates ta destinée, alors ta vie sera comme useless. Elle sera sans signification, sans force. On va dire, oh, mais moi je connais la sœur. Bon, avant elle était bandite, après elle s'est convertie, elle est devenue chrétienne. Bon, son affaire de chrétien, là, on n'a jamais rien vu dedans. Elle a fini par mourir. Bon, dans la... Il n'y a pas de témoignage. Ça veut dire que quelque part, tu as raté le but. La Bible dit, le péché, c'est de rater le but. Ça veut dire que quelque part, l'objectif n'a pas été atteint. Mais si Dieu fait effectivement le travail qu'il veut faire dans ta vie, amen. Si tu le laisses faire le travail qu'il veut faire dans ta vie, il va amener ta vie à devenir un témoignage. Et lorsque les gens vont parler de toi, même si tu as dû prendre des décisions qui ont choqué les gens, même si tu as dû prendre des décisions qui étaient dures, même si tu as dû couper avec certaines personnes, quand ils vont parler de toi, ils vont dire, ah, elle était bandite du même départ de l'autre, elle a parlé de Jésus, elle s'est convertie. Après ça, on ne la voyait plus, ni en boîte de nuit, ni ceci. C'est comme si elle s'était... Mais après, on a vu ci, on a vu ça. Maintenant, elle a commencé même à faire ci, à faire ça. Vraiment, son Dieu est vivant. Pourquoi? Parce que le témoignage est arrivé à son terme, est arrivé à son but. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous ne laissons pas le témoignage se construire. Pourquoi? Parce que ça va se construire dans des difficultés. Ça va se construire dans l'adversité. Ça va se construire dans le combat. Et au milieu de ce combat, il y aura des tentations. Il y aura des manières pour l'ennemi de te faire sortir de cette qualification-là jusqu'à ce que tu ne reçoives jamais la gloire dans ta vie et que par conséquent, tu n'auras jamais un témoignage glorieux. Dieu ne veut pas simplement que tu aies un témoignage de conversion. Il veut que tu aies un témoignage glorieux, vivant, que toi-même tu deviennes un témoignage. Le témoignage, c'est pas j'ai donné ma vie à Jésus. Le témoignage, c'est j'ai donné ma vie à Jésus. Et il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ceci, il y a eu cela. C'est ça le témoignage. Ta vie, ce que ta vie va produire. Or, il dit que nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous ne pouvons rien faire sans lui. La grande partie de nos témoignages n'est pas en réalité des choses que nous-mêmes nous provoquons. Ce sont des choses que lui, il fait pour nous. Parce que nous, notre rôle, ce n'est pas de provoquer les choses, mais c'est de nous positionner. Amen. C'est de nous positionner. C'est pour ça qu'il dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. C'est la prière du juste. Pourquoi? Parce que cette personne-là se positionne dans la justice. À partir du moment où tu es positionné dans la justice, dès que tu pries, ça a de la puissance. Pourquoi? Parce que Dieu veille justement sur ça, sur le fait que tu marches dans la justice et dans la sanctification. Dieu veut changer nos vêtements. Il veut changer notre vêtement. Ceux qui connaissent un peu le monde spirituel, vous allez voir de toutes les façons, même les religieux, vous voyez les religieux. Dans les religions organisées, tout ça, les gens portent des vêtements spéciaux. À chaque étape, il y a un vêtement. En fonction du vêtement, tu sais à quel degré il se trouve. Quand quelqu'un doit se marier, il ne va pas aller se marier avec ses vêtements de ville. Il va porter des vêtements neufs. À moins que véritablement, il ne respecte pas son mariage. Mais moi, je ne connais pas quelqu'un qui va aller se marier avec un de ses vieux habits. Il va quand même faire un effort. Même si ce n'est pas un vêtement neuf, mais c'est un vêtement que lui-même, là, il n'a jamais porté. Peut-être quelqu'un d'autre a porté, il a racheté ça, mais lui-même, il ne l'a jamais porté. Mais moi, je vais vous poser une question. Quel est l'acte que nous faisons, que nous posons avant de porter le nouveau vêtement? On se lave. On se lave. Tu vas pas revenir du sport? Et puis, essayer le costume. Hein? La femme ne va pas revenir de son footing et puis venir essayer la robe de mariée, même si elle est pressée. Avant d'essayer la robe de mariée, là, elle va aller se laver d'abord. Et le jour où elle va vouloir porter, où elle va devoir porter cette robe-là, elle va devoir se laver d'abord. De la même manière, la robe que Dieu a réservée pour nous, là, qui est un vêtement de gloire, cette robe-là, nous ne pouvons pas la porter tant que nous ne nous sommes pas lavés. Amen. Tant que tu ne t'es pas lavé, tu ne peux pas porter ce vêtement. Le vêtement glorieux que Dieu veut mettre dans notre vie est un vêtement qui nécessite obligatoirement de notre part la sanctification. C'est pour ça que celui qui joue avec le péché, en fait, il est en train de retarder le temps où Dieu va mettre la gloire sur sa vie. Et s'il continue, même il dure trop longtemps dedans, ce jour-là même ne va jamais arriver. Et son témoignage ne sera jamais complet. Peu importe le nombre d'années, parce que vous avez des gens qui vont vous dire, oui, moi ça fait 7 ans, moi ça fait 10 ans, moi ça fait 15 ans. Mon frère, même si tu fais 15 ans sans te laver, ça sera 15 ans sans porter la robe. Le problème n'est pas le nombre d'années, au contraire, le plus d'années que tu fais, le plus sale tu es. Et donc Dieu ne va pas mettre ce vêtement-là sur toi. La gloire de Dieu ne va pas venir sur toi. Et il le fait, en réalité, c'est pour toi, ta propre sécurité. Parce que Dieu est le péché. Il a l'horreur, il a de la haine pour le péché. Et quelqu'un ne peut pas baigner dans le péché. Et la gloire de Dieu, si elle, la gloire de Dieu vient et que cette personne-là est dans le péché et qu'elle veut demeurer dans le péché, il y a deux choses qui vont se passer. Soit la gloire repart, soit la personne meurt. Il n'y a pas de truc au milieu. Donc, si Dieu veut préserver ta vie, la gloire va partir. Et toi, tu vas continuer de souffrir. La sanctification est obligatoire. Hébreux 12, verset 14, nous dit quelque chose. Hébreux 12, 14. Il dit... Recherchez la paix avec tous. Amen. Je vous donne le temps de trouver. Recherchez la paix avec tous. Amen. Et la sanctification. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Et regardez ce qu'il dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le mot qui a été traduit par « verra », sans laquelle personne ne verra le Seigneur, « verra le Seigneur », c'est on a l'impression que sans la paix avec tous et la sanctification, on ne va pas voir Jésus. Bon, il y a des gens qui se disent, mais ça sert à quoi de voir Jésus? Je sais qu'il est là, la Bible a dit « heureux, ceux qui croient sans le voir ». Je n'ai pas besoin de le voir. Mais le « voir » dont on parle là n'est pas le « voir » de ses yeux. Personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire que personne ne verra le Seigneur à l'œuvre dans sa vie. Tu ne le verras pas. C'est-à-dire, tu ne le verras pas dans le sens que l'œil n'a point vu ce que l'Éternel a réservé pour ceux qu'il aime. Ça veut dire que tu ne le verras pas en action dans ta vie. Sans la paix. C'est pour ça qu'il dit, même quand tu vas faire une offrande et que tu te souviens que tu as des problèmes avec quelqu'un, va régler d'abord tes problèmes, ensuite viens faire ton offrande. Pourquoi? Parce que là, c'est la paix avec les autres. Amen. Et puis maintenant, la sanctification. Ça veut dire marcher, c'est la sanctification, c'est les effets de la consécration. Ça veut dire marcher dans la sainteté, littéralement. Tant que tu n'es pas prêt à marcher dans la sainteté, tu n'es pas prêt à voir la gloire du Seigneur. Je sais que ça peut être dur pour certaines personnes, parce que surtout des personnes qui ont vécu dans un environnement religieux, ou qui ont connu des parents, qui connaissent le Seigneur, et puis bon, au fur et à mesure, on a tendance à rentrer un peu dans une forme de laisser aller, de compromission. Oh non, mais c'est pas aussi grave que ça, mais ça, c'est pas aussi grave que ça. Je vais vous dire quelque chose. Le diable, la Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que l'ennemi, il ne vient que pour faire quoi? Que pour voler, dérober, voler et égorger, et tuer. La seule chose qui vous immunise contre le diable, c'est la gloire de Dieu sur votre vie. C'est la gloire qui fait qu'il ne peut pas vous toucher. Vous savez, dans le jardin d'Éden, la Bible dit que quand Adam a péché, il a su qu'il était nu. Du genre, il était nu avant, mais il ne savait pas qu'il était nu. Pourquoi? Parce que lorsque Adam a péché, il y a quelque chose qu'il a quitté. Cette chose qu'il a quittée, là, c'est pour ça qu'on appelle ça la chute. Quand vous lisez ce passage dans la Bible, on dit la chute d'Adam. C'est-à-dire, Adam était à un certain niveau. Quel niveau? À un niveau supérieur à celui de Satan. C'est ce qui a suscité la jalousie et la haine dans le cœur de Satan à l'égard d'Adam. Pourquoi Dieu fait un être et il place cette tête-là au-dessus de lui? Vous voyez? Quand quelqu'un dit, je marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut me nuire. Ça, ce n'est pas n'importe qui. Ça, c'est la personne qui a la gloire de Dieu sur sa vie. Si tu n'as pas la gloire de Dieu sur ta vie, tu ne marches sur aucun serpent et aucun scorpion. Et tout ce que l'ennemi va faire contre toi, ça va te nuire. Ce n'est même pas la peine de te blaguer, en guillemets, de te séduire toi-même. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui a la gloire de Dieu sur sa vie. Jeudi passé, nous avons prié. Je vous ai parlé du fait qu'il y a trois cieux. Il y a le ciel terrestre, il y a le ciel où habitent les esprits méchants, et puis il y a le ciel maintenant où Dieu habite. Entre notre ciel, c'est-à-dire notre terre, et le ciel de Dieu, il y a un ciel qui doit être traversé. Dieu nous a donné la clé de ce ciel-là pour pouvoir l'ouvrir et le fermer, pour qu'il n'y ait aucune interférence entre ce que Dieu veut faire dans notre vie et nous. Mais celui qui n'a pas la gloire de Dieu sur sa vie, il n'a pas la clé de ce ciel-là. Les démons sont assis là au-dessus. Quand il y a une réponse qui vient, ils bloquent. Quand il y a une prière qui monte, ils bloquent. C'est-à-dire que les choses s'arrêtent pour toi au deuxième ciel. Ça n'arrive pas au ciel de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que non, l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre, ni sa main trop courte pour nous toucher. Mais c'est le péché qui met une séparation entre lui et nous et qui met une distance entre lui et nous. Ça veut dire quoi? Que la personne, ce qui détermine si nous marchons véritablement dans la gloire de Dieu ou pas, tout dépend de notre niveau de sanctification. Dis à ton voisin la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Satan est un menteur et un voleur. Vous savez en fait ce qu'il aime en réalité? Il est un tueur de destinées. Il est un tueur de destinées. Je vais vous dire quelque chose. Si la destinée de quelqu'un s'accomplit, ça sera toujours un accomplissement glorieux. Toujours. Parce que notre Bible nous dit que Dieu nous connaissait avant que nous soyons dans le ventre de notre mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a établi dans notre vie des objectifs que nous devons atteindre avant même que nous soyons dans le ventre de notre mère, avant même que nos parents se connaissent. Il avait déjà un programme pour nous. C'est en fonction de ce programme-là, en fonction de ces choses que nous devons accomplir, que Dieu nous a donné certaines capacités, certaines qualités, certaines dispositions. Et nous arrivons sur la terre. Si la volonté de Dieu s'accomplit pour nous, que nous ne nous écartons pas, ni à gauche, ni à droite, et que nous marchons vraiment comme nous sommes appelés à le faire en nouveauté de vie, et que la volonté de Dieu s'accomplit dans notre vie, quel que soit le métier que nous avons, quel que soit le niveau intellectuel que nous avons sur la terre, notre témoignage va amener des centaines de milliers de personnes à se convertir. Amen. Jésus n'était pas un docteur. Jésus n'était pas un ingénieur. Jésus n'était pas un pharmacien. Il n'a pas trouvé de remède contre un médicament. Jésus était un menuisier, un charpentier. Il faisait les charpentes des maisons. C'était ça, sa fonction. La gloire de Dieu est descendue dans sa vie. 3 ans et demi après, l'humanité tout entière a tellement été marquée par son témoignage que le monde ne fut plus jamais pareil. On parle de 1000 ans avant Jésus et de 1000 ans après Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a marqué le monde. À cause de quoi? À cause de la gloire qui était dans sa vie. Mais tout ce témoignage-là, le diable aurait pu le voler. Quand? Lorsqu'il était dans le désert. Quand le diable est venu lui dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Si Jésus avait fait ça, c'était fini. C'était fini. Le diable est après ta destinée. Le diable est après ce que tu dois devenir. Les autres trucs là, les petites séductions là, c'est pas la finalité. Ces petits péchés là, on dit petit, c'est un petit péché, c'est mon péché mignon. C'est pas un péché mignon, mon Dieu, c'est un voleur de destinée. C'est un voleur de destinée. Il y a des gens qui devaient devenir des grands pasteurs, des grands serviteurs de Dieu, mais à cause d'un petit péché, ils vont être des gens médiocres, ils seront médiocres. Il y a des gens qui doivent devenir des grandes femmes d'affaires, vraiment des grandes oratrices même aussi, parce que tu peux faire des affaires, être orateur, être oratrice, avoir une vie glorieuse. Mais à cause, pourquoi? Parce que c'est la gloire qui va te mettre au sommet et qui va te faire briller. Mais c'est le petit péché qui peut faire partir la gloire. Donc le petit péché peut faire partir ces grandes choses-là. Oui. C'est pour ça que quelqu'un disait que le diable se cache dans les détails. Un autre disait, mais moi, j'ai jamais vu un éléphant mordre quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a été déjà mordu par un éléphant? Franchement, pour être mordu par un éléphant, il faut le vouloir. Il faut même venir te mettre là et dire à l'éléphant, mais on a tous été mordus, on a tous été piqués par un moustique, non? Celui qui dit qu'il n'a pas été piqué par un moustique un jour dans sa vie, c'est que vraiment, il n'a pas vécu sur la terre. Mais le moustique, il est tout petit. Des fois, tu ne le vois même pas, tu l'entends. Mais il peut te pourrir ta nuit. Un péché, on dit, non, c'est un petit péché, à cause d'un petit péché comme ça. Mais ce petit péché-là, le péché empêche, ça il faut bien retenir ça. Le péché empêche. Le péché va empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie et ta destinée de s'accomplir. Tu n'auras pas de témoignage. Il y a des gens qui arrivent à l'aube à la fin de leur vie sans témoignage. Toi, tu auras un témoignage au nom de Jésus. Tu auras un témoignage au nom de Jésus. Et ton témoignage va aller dans d'autres nations. Il y a des gens, lorsqu'ils vont arriver au ciel, ils vont chercher à te croiser. Parce qu'ils ont entendu parler de toi sur la terre. Alléluia. Il y a des personnes, on a envie de les voir au ciel. On ne sera pas vraiment content d'être arrivé au ciel si on n'a pas vu certaines personnes. Moi, il y a des gens, il faut que je les voie. Je veux voir Moïse. Alléluia. Je veux voir Paul. Je veux voir Élie. Je vois Élisée. Amen. Il y a plein de gens qu'on veut voir. Pourquoi? Parce que leur témoignage nous est parvenu. Je veux voir Joseph. Mais vous vous imaginez, si Joseph s'était arrêté dans la maison de Potiphar et que le péché que la femme de Potiphar lui avait proposé l'était tombé dedans, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, là, on allait parler de Joseph encore? Sa destinée était volée. Un petit péché peut détruire la destinée de quelqu'un. Samson, nous avons tous entendu parler de lui. Il aurait pu faire des choses encore plus grandes que celles qu'il a faites. Mais parce qu'il s'est arrêté dans la maison de qui? Dalila. Parce qu'il s'est arrêté dans la maison de Dalila. Dalila, qu'est-ce qu'elle lui a fait? Elle a volé sa destinée. Lui, au moins, il a connu la gloire un peu. Parce qu'il a vu la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Et quand il a rencontré Dalila, il avait la gloire. Mais Dalila, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé la gloire sur sa vie. À tel point que ses ennemis ont pu mettre la main sur lui. Ils ont pu casser ses yeux. Ils ont pu le jeter dans une prison. Et il a vécu malheureux, misérable. La vie misérable n'est pas la volonté de Dieu pour nous. La vie misérable est la conséquence de la désobéissance dans notre vie. C'est la conséquence. La maladie, c'est la conséquence du péché. Le trouble, c'est la conséquence du péché. La peur, c'est la conséquence du péché. Il faut des gens qui disent non à la nourriture du roi, comme Meshach, Shadrach et Abednego, ainsi que Daniel. Ils ont dit non à la nourriture du roi. Nous, on ne va pas se souiller avec cette nourriture-là. On préfère rester, on veut suivre ce que notre Dieu nous a dit. La Bible dit qu'ils ont fait cela, ils ont surpassé en intelligence et en sagesse tous les gens de leur promotion. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la gloire de Dieu sur leur vie. Mieux vaut avoir la gloire de Dieu que de se compromettre. Parce que pendant un temps, effectivement, les gens se sont levés contre eux, ils se sont ligués contre eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les tentatives pour les détruire se sont avérées être des tentatives qui les ont propulsés au sommet. Parce que quand la gloire de Dieu est sur toi, tout ce que l'ennemi va faire contre toi va se transformer. Quand la Bible dit « tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », c'est tout concourt au bien de ceux qui ont la gloire de Dieu sur leur vie. Parce que ceux qui aiment Dieu, ils ont la gloire de Dieu sur leur vie. Donc, toute chose concourt à leur bien. Mais ce n'est pas d'aller, tu vas vivre dans le péché et puis un problème arrive et tu dis, c'est pas grave, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui t'a dit ça? Ananias et Saphira. Faut dire non à l'esprit d'Ananias et Saphira. L'esprit d'Ananias et Saphira, c'est un esprit d'hypocrisie. C'est un esprit d'hypocrisie. C'est un esprit de gens qui viennent devant à l'église, ils font comme s'ils font comme des vrais chrétiens, comme s'ils vivent comme des vrais chrétiens, alors que chez eux, là-bas, ils vivent comme des païens, mais devant les gens, ils font comme s'ils sont vraiment convertis. Ils ont fait comme s'ils participaient aux œuvres de l'église, alors qu'ils ont caché la moitié pour eux. Ils n'étaient pas obligés. L'hypocrisie, Dieu n'aime pas les hypocrites. Sois toi-même, sois vrai. Parce que les gens qui sont hypocrites, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent faire croire que Dieu n'est pas juste et Dieu n'est pas bon dans ses jugements. On dit, oh, mais regarde la sœur là, pourquoi Dieu depuis n'a pas béni? Elle-même, alors qu'elle-même, elle sait pourquoi elle n'est pas bénie. Elle-même, elle sait. Ou lui-même, il sait. Lui-même, il sait. Mais il ne le dit pas à l'église. Mais il vient et il fait semblant, il fait comme si. Et après, on dit, mais Dieu-même, pourquoi Dieu, il met autant de temps comme ça pour bénir le frère. Ah. C'est parce que tu ne sais pas en réalité ce qui se passe. L'évangile, ce n'est pas de l'hypocrisie. Tu veux la gloire ou tu ne veux pas. Mais si tu veux la gloire, tu dois payer le prix. Et le prix, c'est la sanctification. Et si tu ne veux pas te sanctifier, tu vas connaître le péché. Et le péché aussi a un prix. Romains 8, 13. Dieu veut glorifier son Église. Amen. Et Dieu veut se glorifier dans ta vie. Mais il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, Romains 8, 13, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous vivez par la chair, vous mourrez. Ça veut dire que si on vit dans le péché, on va mourir. Si on vit dans le péché, on va mourir. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. C'est dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Le péché a un salaire, et ce salaire-là, c'est la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56. 1 Corinthiens 15, 56. Au verset 55, il dit, « Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Au verset 56, il dit, « L'aiguillon de la mort, c'est le péché. » L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ça veut dire que quand le péché entre dans la vie de quelqu'un ou est manifesté dans la vie de quelqu'un, c'est comme si cette personne avait été harponnée, comme avait mordu à l'hameçon de la mort. La mort maintenant va commencer à le tirer petit à petit. Quel genre de mort ? La mort spirituelle. La mort spirituelle. La personne commence à se sentir vide. La personne commence à se sentir vile. La personne n'a plus d'énergie spirituelle. Elle n'a plus de puissance. Elle commence à avoir la vie de tout le monde. Elle commence à expérimenter les choses comme tout le monde. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne normale. Ce n'est pas la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale, c'est une vie chrétienne glorieuse. C'est une vie dans laquelle l'Éternel pourvoit tous nos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. C'est une vie dans laquelle tous nos péchés nous sont pardonnés, même à la base. Ça veut dire que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On vit maintenant en nouveauté de vie. On marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. On est sous la grâce, on est sous la protection. On expérimente véritablement la puissance de Dieu dans chaque domaine de notre vie. Et quand on a l'impression qu'on est en train de gagner parce qu'on a la jouissance temporaire de quelque chose, en réalité, sur le long terme, on est en train de perdre parce qu'on est en train de vendre nos destinées. On est en train de mettre nos destinées sur la table. On est en train de sacrifier nos destinées. Est-ce que ta destinée vaut ce sacrifice-là ? Est-ce que ta destinée vaut 5 minutes, des fois, que ça dure ? Est-ce que ta destinée vaut ce mensonge-là ? Est-ce que ta destinée vaut une vie ? Juste quelques instants. Parce que le péché est séducteur. Hébreux chapitre 3, verset 13. Hébreux 3, 13 nous dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, tant qu'on peut dire aujourd'hui, exhortez-vous, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Le péché, c'est une séduction. Et la séduction du péché, la manière de lutter contre ça, c'est de ne pas laisser la personne tranquille comme ça aller. Quand tu laisses la personne tranquille aller là, c'est que tu n'as pas véritable, tu n'es pas en train de... Je veux dire, c'est comme si tu l'avais livré aussi quelque part. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu sais que quelqu'un vit dans le péché. Ce n'est pas une fois par mois que tu dois lui parler. C'est tous les jours. Tous les jours. Parce que c'est trop important. Ne faut pas lui donner rendez-vous dans 6 mois. Non, donne-moi 6 mois, le temps de m'organiser. Le temps d'organiser quoi? Si la personne meurt là, c'est direct en enfer. Y a pas... Il n'y a pas organisé quoi? Non, en fait, c'est-à-dire qu'on doit négocier d'abord pour voir, négocier pour voir avant de régulariser ou d'ouvrir la porte de sa maison à la gloire de Dieu. On n'attend pas. Tu veux la gloire de Dieu? Tu veux régulariser quoi? Il n'y a pas de temps. Il dit, exhortez-vous. Quoi? Quand? Les uns les autres. Quand? Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Il dit, chaque jour. Amen. Afin qu'aucun de vous, ne s'endurcisse par la séduction du péché. Les gens pensent que plus longtemps on reste, que quand on se donne un délai dans le péché, on pense qu'on va sortir de là. Non, c'est faux. Plus longtemps tu restes dedans, plus ça devient difficile de sortir de là. C'est ça, on dit s'endurcir dans le péché. Parce que après on est surpris de voir que telle personne vit dans le péché, mais il vit, ça ne lui dit plus rien. Parce que ça suit une évolution. Ça suit une progression. C'est dans le livre de psaumes, psaume chapitre 1, verset 1. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. D'abord, le péché, on marche d'abord dans le péché. On marche. Marcher là, ça veut dire que tu rencontres le péché. Après, il dit, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Donc d'abord, tu marches dans le péché. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois dans le péché. Et puis troisièmement, après, qu'est-ce qu'on dit? Qui ne s'arrête pas d'abord. Amen. Qui ne marche pas. D'abord, tu marches dans le péché. Après, qui ne s'arrête pas. En compagnie des méchants. Qui ne s'arrête pas en compagnie des méchants. D'abord, il fait quoi? Vous connaissez pas? On connaît pas bien notre psaume là. C'est pas normal. Hein? Allez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc, il y a d'abord le fait de marcher dans le péché. OK? Marcher selon le conseil des méchants. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu te propose quelque chose. Il te dit de faire quelque chose. Il te dit de faire quelque chose. Et puis cette chose-là, ça c'est le conseil des méchants. Tu acceptes de faire ça. Tu as agrippé. Moi, je connais un serviteur de Dieu. Il avait une onction extraordinaire dans sa vie. Je l'ai connu en Afrique. Et on s'est revus quelques années plus tard aux États-Unis. Et il me dit, vraiment, il dit, je vais me marier. Je dis, mais je ne connais même pas la sœur. Il dit, non, c'est un mariage arrangé. Je dis, mais un mariage arrangé. Il dit, franchement, c'est la seule manière d'avoir ces papiers ici aux États-Unis. C'est la seule manière, il faut que je fasse ça. Je lui ai dit, mon frère, c'est pas, faut pas faire ça. Il dit, c'est mon oncle. Mon oncle me dit, je fais ça ou bien je me débrouille. En tout cas, lui, c'est comme ça. Donc, c'est le conseil du méchant. Tu vois? Il faut régulariser ta situation, tu fais un mariage arrangé. Donc, le gars, il a fait son mariage arrangé. Malgré tout ce que je lui ai dit. Mais je me rends compte que, moi, je lui ai parlé une seule fois. Mais selon ce que ce verset a dit, j'aurais dû l'appeler tous les jours pour lui dire, mon frère, ne fais pas, tous les jours, jusqu'à ce qu'il me dise, qu'il me raccroche au nez et qu'il me dise, ne m'appelle plus. Là, c'est lui maintenant qui a choisi. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne devais pas le laisser faire 2 jours, 3 jours sans lui parler de cette situation-là pour qu'il ne s'endurcisse pas dedans. Mais il s'endurcit dedans, il l'a fait. Il allait payer une femme 10 000 dollars. Ils ont fait le mariage. 3 semaines plus tard, la femme avait fini de dépenser les 10 000 dollars. Là. Chaque semaine, elle appelait maintenant pour avoir 2 000 dollars. Sinon, elle va aller dire. Et le truc, c'est que il y a un délai avant. Mais ça, c'est rien. Il a quand même tenu. Il a eu les choses. Il a fini par voir les papiers. Le jour où il devait maintenant faire son vrai mariage, la femme s'est levée, l'administration s'est levée. Je vous dis qu'au jour où je vous parle aujourd'hui, il n'a plus de ministère, il n'est plus pasteur ni rien, il ne peut plus rien prêcher. Ni aux États-Unis, ni en Afrique, sa destinée a été volée à cause d'un conseil d'un méchant. Vous savez, pour le moment, et puis ça, les témoignages ici sont nombreux. Enfin, un enfant, il faut faire reconnaître un enfant, machin. Il y en a beaucoup qui rentrent dedans. Pour le moment, on est des petits pasteurs. C'est rien. Personne ne s'intéresse à nous. Mais quand tu vas commencer à avoir 2000 membres, 3000 membres, c'est pas les. C'est Dieu dit, ça, c'est des enquêtes approfondies. C'est les gens, c'est les gens des renseignements généraux maintenant qui vont s'intéresser à ton cas. Là, maintenant, on va aller ressortir les choses. Et tu es déjà arrivé à un certain niveau. Quand la chose sort là, c'est fini. Ça, on parle au niveau des serviteurs de Dieu, mais même nous, chacun d'entre nous individuellement. C'est le diable, la Bible dit l'aiguillon, le péché c'est l'aiguillon de la mort. C'est le truc qui met dans ta vie et puis tu cours, qu'il a besoin de ta voix, il tire dessus et il te ramène. C'est pour ça que nous ne devons pas nous amuser avec ça. Il y a des choses, des décisions que nous prenons qui vont changer notre vie pour toujours. Pour une petite paix temporaire que ça va nous donner. Une petite jouissance temporaire, Hébreux 11, 25. Donc il y a « Ne marche pas selon le conseil des méchants, après qu'il ait marché, qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Donc il marche, après il fait quoi? Il s'arrête maintenant. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il ne s'assied pas. Il s'est arrêté maintenant, au lieu de continuer son chemin. Non, maintenant il va s'asseoir en compagnie des moqueurs. Et tellement ça ne lui dit rien, il est assis dedans et ça ne lui dit plus rien. Hébreux 11, 25. Ça va, vous m'aimez toujours? Amen. Hébreux 11, 24. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé ça. Verset 25, la Bible dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Pour un temps, la jouissance du péché. Le péché offre une jouissance temporaire. C'est temporaire. Ce n'est pas permanent. C'est temporaire. Il y en a, ça dure 10 minutes, d'autres, ça dure 20 minutes, d'autres, ça dure 2 ans, d'autres, ça dure 5 ans, mais c'est toujours temporaire. Un jour, ça va s'arrêter. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dedans. Amen. Il ne faut pas que ta destinée soit volée. Et tout voleur de destinée est vaincu dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Peut-être que tu ne savais pas, mais maintenant tu le sais. Mais moi, je déclare que le diable ne va pas voler ton témoignage au nom de Jésus. Et que ce que Dieu t'a appelé à être et à devenir sur cette terre-là, tu vas le devenir au nom de Jésus. Parce qu'on va briser le pouvoir du péché au nom de Jésus. Briser son pouvoir. C'est une grâce que Dieu nous a donnée. C'est une grâce que Jésus nous a donnée. Il nous a pas seulement appelé à vivre dans la sanctification. Il nous a donné la puissance et le pouvoir de vivre dans la sanctification. Et nous allons avoir un témoignage glorieux. Parce que chacun d'entre nous dans cette église-là va avoir un témoignage glorieux individuellement. Quand tu prends les winners individuellement, ils ont un témoignage glorieux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés à la vérité. Tu ne commettras pas le genre d'erreur sur lesquelles on ne peut pas revenir. Nom de Jésus. Tu ne commettras pas ce genre d'erreur-là. Je prie le Seigneur vraiment qu'il t'aide à ce moment-là. Alléluia. À te relever. Jamais. Il faut que tu aies du secours. Alléluia. Faut que tu aies du secours. Sainte délivrance. Alléluia. La mort perd son pouvoir sur ta vie au nom de Jésus. Le diable ne peut pas tuer ta destinée. Il ne peut pas tuer ta destinée. Je dis, regarde, il y a des familles qui ont besoin de ton témoignage pour se convertir. Il y a des quartiers qui ont besoin de ton témoignage pour se convertir. Il y a des villages tout entiers qui ont besoin de ton témoignage pour se convertir. Et ce que, il y a des villes entières qui ont besoin de ton témoignage pour se convertir. Et qu'est-ce que le diable veut faire? Il veut voler ce témoignage-là. Il veut voler cette destinée pour que tu deviennes quoi? Un sujet de moquerie. Qu'on parle de toi en disant, il s'est converti là. Et puis maintenant, il est devenu un clochard quelque part où elle s'est convertie. Maintenant, elle est là, elle traîne là-bas. Ça, c'est pas les témoignages glorieux. Ça ne donne pas gloire à Dieu. Et c'est ça que le diable veut faire. Il veut ternir ton témoignage de telle sorte que l'acte de ta conversion n'ait aucun sens. Au lieu que ça agisse comme un aimant pour attirer les gens, ça agit plutôt comme un épouvantail pour chasser les gens. Tu t'es converti et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé là. Ça va se passer et ça va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Proverbe 11:3. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Voyez, l'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Quand le perfide se détourne, il pense que c'est pour un temps qu'il va pouvoir retrouver la route. Mais le problème, c'est que si tu te détournes, même si tu retrouves la route, la vie, c'est une course. Tu peux retrouver la route, mais trop tard. Les gens de ta génération, ils ont déjà pris leur envol. Et puis toi, tu es derrière, tu es en train de courir derrière. Je vous dis, il y a un moment où tu peux faire, dans ta vie, où tu peux faire certaines choses. Il faut que tu ne sois pas en retard. Même si tu es en retard, bon, ça peut aller, mais le mieux, c'est d'être à l'heure. Que dans ta jeunesse, la gloire de Dieu vienne te trouver dans ta jeunesse. Faut pas dire non, je suis jeune, je vais profiter de la vie. Tu n'en profites rien. Tu es en train de perdre ta destinée. Parce que si la gloire de Dieu vient dans ta vie, à l'âge où il faut, je vais te dire que tu vas rire dans ta vie. Tu vas te réjouir. Parce que tu ne vas rater aucune étape. Regardez les sœurs qui gâchent leur destinée à cause d'un petit détour. Un petit crochet seulement. On lit ses noms. Elle est mignonne. Je sais que tu es chrétienne, mais ce n'est pas grave. Tu veux sortir quand même. Et puis. Moi, je ne vise personne. Mais c'est comme ça le diable travaille. Et après, tu vas devoir traîner ça pratiquement toute ta vie. Et personne ne sait ce que tu aurais pu devenir. Si cette affaire-là n'était pas rentrée dans ta vie, n'est-ce pas? Amen. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça a volé ta destinée. Ça a volé ta destinée. Derrière chaque petit péché se trouve un voleur de destinée. Donc, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que je veux vraiment cet avenir glorieux que Dieu me promet ou bien est-ce que je veux m'amuser? Si tu veux la gloire, paye le prix de la gloire. Alléluia. Le péché va faire quoi? Ça va détruire tes finances, détruire ta famille, détruire ta paix, détruire ton mariage, détruire tout. Le péché est destructeur. La sanctification nous ouvre les portes de la gloire. Marchons dans la sanctification. Marchons dans la consécration. Alléluia. Il ne faut pas s'amuser avec Dieu. Il nous appelle à une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Notre vie ne peut pas ressembler à la vie d'un païen. Quand un païen s'approche de toi, il doit savoir qu'entre toi et lui, il y a une différence. Lui vit d'un règne, toi tu vis d'un autre. Quand il te parle, ah non, mais faisons, tu dis, moi je ne fais pas ça. Je ne vais pas dans ce genre d'endroit. Ah, mais tu vois, elle est mignonne quand même, t'intéresse, tu peux. Je ne fais pas ce genre de choses. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. C'est tout. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu. Et parce que je suis un enfant de Dieu, Dieu va déposer, va mettre sa gloire sur ma vie. Et je vais marcher dans la gloire. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui s'est détourné ne peut pas revenir? Il peut revenir. C'est difficile. C'est vraiment difficile, je t'ai entendu. ça sera encore plus dur, plus dur. À chaque fois qu'on se détourne, pour revenir, c'est plus dur. Mais c'est possible. Qui l'a fait? David l'a fait. Il s'est détourné, mais il est revenu. Et Dieu a dit, voilà l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David était un homme capable de prendre des décisions radicales. Et il était prêt à supporter la souffrance. Quand David était déchu, ça s'est manifesté dans sa vie. Est-ce que vous savez que David, un jour, on l'a chassé de son royaume? Des fois, on oublie ça. C'est comme si toi, tu es il est le roi. Il était le roi. Son fils est venu rentrer dans le royaume, s'asseoir sur son trône. David a dû prendre ses affaires, lui et puis toute sa cour. Il a dû fuir du royaume. Il est parti. Ça, c'est une déchéance. Il y a des gens qui ne peuvent jamais se remettre de ce genre de situation-là parce qu'ils n'ont pas le cœur tenace. Je dis, quand le péché, quand le diable veut te cribler, c'est difficile. Mais David, sur le chemin, les gens l'ont humilié. Il y a même quelqu'un qui s'est arrêté sur sa clôture qui a commencé à l'insulter. Un de ses gardes a dit, laisse-moi, je vais foudroyer. Il a dit quoi? Je vais le détruire. Parce qu'il se voyait en train de lui lancer une de ces lances-là qui allait pulvériser le monsieur. David a dit non. Si ce gars-là, il peut parler comme ça de la sorte aujourd'hui, c'est parce que Dieu lui a donné le pouvoir de le faire. Mon problème, ce n'est pas avec lui, c'est avec Dieu. Pourquoi? Parce que David savait ce qu'il avait conduit à cette situation-là. Les actes qu'il avait posés ont apporté des conséquences dans sa vie. Savez, Dieu, on règle les affaires. Il allait se coucher devant Dieu. Il a porté le sac et la cendre. Il a jeûné, il a prié, il a pleuré, il s'est repenti. Dieu l'a restauré. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais il faut confesser les péchés. Il faut le confesser. Tu ne peux pas continuer comme ça, comme si de rien n'était. Car la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tant que tu n'avoues pas pour les délaisser, la miséricorde ne pourra pas s'exercer. Donc, que la miséricorde s'exerce. Si tu traites comme ça avec le péché, je vais te dire une chose, le péché n'aura plus de main dans ta vie. Mais pourquoi ça continue? Parce que tu le caches. Mais le jour où tu vas commencer à exposer, c'est que tu es prête ou tu es prêt à sortir de cette situation. Et à ce moment-là, il y aura la restauration. Mais ne dure pas trop longtemps. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Parce que si tu attends trop longtemps, les dégâts que ça va faire dans ta vie seront irréversibles. Une fois, j'ai dit à une sœur, elle est mariée maintenant, mais elle m'avait confessé qu'elle vivait dans une relation bizarre avec un homme qui avait beaucoup d'argent et qui l'entretenait, qui payait son appart et tout ça. Je lui ai dit, tu vois, tant que cet homme-là est dans ta vie, tu ne vas pas connaître l'homme que Dieu veut que tu épouses. Heureusement que cette sœur-là m'a écouté. Parce que elle devait rencontrer l'homme avec lequel elle allait se marier dans les mois. C'est du genre, elle a arrêté la relation, ça n'a même pas duré 2 semaines, elle a rencontré son mari. Mais si elle n'avait pas écouté et qu'elle n'avait pas arrêté cette relation-là, dans les deux semaines-là, elle n'allait pas rencontrer le monsieur. Et elle allait rester sans se marier après. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu entends, c'est que Dieu veut te parler. Et Dieu veut parler à beaucoup de personnes ici aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Quand tu entends ce que Dieu veut te parler, c'est qu'il est temps de prendre une décision. C'est qu'il est temps maintenant de réagir. Ne laisse pas la mort t'envahir. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on a? On n'a que des regrets. L'enfer, c'est un endroit qui est plein de regrets, de gens qui regrettent. Mais vous savez quoi? L'enfer, dans la vie d'un homme, peut commencer sur la terre. Quand il regrette, il dit, vraiment, Qui m'a dit de prendre ce pot de vin là? Qui m'a dit? Au moment où il est en train de dire ça, il l'a assis en prison. Parce qu'on l'a attrapé. Tu as fait des études. Tu as fait un doctorat en finance. Tu étais stagiaire. On t'a engagé. On t'a nommé directeur, commissaire, machin. Qu'est-ce que tu avais à aller prendre cette enveloppe? Tu as pris l'enveloppe. Qu'est-ce que tu fais? Tu as gâché ta carrière. À vie, on ne va plus jamais te confier une responsabilité dans le domaine financier quelque part. Tu as gâché ta famille, tu as détruit ton mariage, tu as détruit tes enfants, tu as détruit plusieurs générations à cause d'un petit acte simple comme ça que tu as posé. Il y en a tellement d'exemples, il y en a trop. Quoi qu'il en soit, la conclusion de toute chose, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, nous devons régler le problème du péché de manière radicale. Et ça commence aujourd'hui, maintenant. Alléluia. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. On va se lever, on va prier le Seigneur. C'est une série de messages que j'ai intitulé « Une vie nouvelle ». Amen. Une vie nouvelle. Tu vas toucher ton voisin, tu vas lui dire, à partir d'aujourd'hui, tu marches en nouveauté de vie. Alléluia. En nouveauté de vie. Les gens qui te connaissent doivent savoir que tu as changé. Alléluia. Ils doivent savoir que tu as changé. Ils doivent savoir que tu es une nouvelle créature. Que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. Par-dessus tout, ils doivent voir la gloire de Dieu sur ta vie. Et ils verront la gloire de Dieu. Dis Amen trois fois. Ils verront la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Élève la voix, prie ton Dieu. Élève la voix, prie ton Dieu.